Chapitre 16. Septembre 2018. Maple House se remplit lentement mais sûrement durant le dernier week-end avant la rentrée. Les bâtiments et pelouses s'animent et résonnent de musique, de claquements de portes, de sonneries de téléphones, de bruits de moteurs, d'éclats de rire, de cris. Sophie pensait qu'en déménageant ici, elle se sentirait au milieu de nulle part, ce qu'elle redoutait. Étrangement, elle a plutôt l'impression d'être au centre de l'agitation. Assise dans le jardin, elle peut observer les élèves qui quittent leur chambre et se dirigent vers le réfectoire pour le petit déjeuner. Quelques joggeurs trottinent dans le parc. Elle commence à reconnaître certains visages, certains groupes d'amis, et elle réussit même à distinguer, en fonction de leur degré d'assurance, les nouveaux venus des anciens pensionnaires. Le dimanche soir, avant la reprise officielle des cours, se tient le dîner d'accueil. Le jour des inscriptions est le plus chargé avant la rentrée, car la majorité des élèves arrivent au pensionnat et doivent choisir leurs options. En réalité, la plupart des formalités sont désormais réalisées sur Internet avant l'arrivée des pensionnaires. Mais la tradition du dîner demeure, et c'est une bonne occasion pour que les élèves fassent connaissance avant le début des cours. Selon Sean, la véritable attraction de cette soirée, c'est le repas. Autrefois, c'était un dîner. Depuis la construction d'une nouvelle résidence, 10 ans plus tôt, la population lycéenne avait doublé, et un buffet dansant avait remplacé le dîner assis. Ce soir, Sophie est bien décidée à être renversante. Pas simplement belle, mais magnifique, à couper le souffle, pour que les élèves parlent d'elle dans son dos et disent « La copine de Monsieur Gray est trop canon, non ?» Elle ne sait pas pourquoi, mais elle veut impressionner certains des pensionnaires. Pas les plus jeunes, ceux de 19 ans qui sont presque des hommes avec leur bronzage, leurs cheveux épais et leur démarche assurée. Elle enfile un caraco en satin au décolleté et dos en dentelle, un pantalon noir moulant et des sandales à talons compensés. Elle se fait une queue de cheval sur le côté. Elle applique sur son visage des soins qui lui garantissent un teint éclatant et opte pour un maquillage lumineux. Sean ne la reconnaît pas tout de suite quand elle entre dans le hall. « Sophie, tu es superbe. » Et elle voit qu'il le pense vraiment. Le bruit en provenance de la salle à manger est assourdissant. La grande pièce est surmontée d'un plafond voûté en bois et les fenêtres baignées de lumière sont placées trop haut pour que l'on puisse voir le parc. Il y a cependant 3 immenses doubles portes qui donnent sur une pelouse où une tente, des tables et des chaises ont été disposées dans le soleil de cette fin d'après-midi. Sophie et Sean se promènent à l'extérieur. Elle le tient par le bras, souriant à tous les gens qu'ils croisent, s'arrêtant pour saluer. Ils trouvent une table vide où Sean l'installe avant d'aller leur chercher une boisson. Elle balaie des yeux la scène en attendant son retour. De petits groupes d'élèves forment des poches impénétrables. Ils sont 6 sur 2 et pourtant pathétiques. Ils pensent tout savoir et ne connaissent rien. Ce n'est pas seulement leur jeunesse éclatante, songe-t-elle, mais leur milieu, les privilèges dont ils ont hérité, qui transparaissent dans leur façon de se toucher les cheveux, de tenir leur verre, de faire défiler nonchalamment des photos sur leur téléphone. Ils viennent d'endroits que les gens normaux ne peuvent même pas imaginer, et leur richesse ostentatoire suinte sous leur apparence négligée. Sophie est issue d'un monde où l'on vit en appartement, où l'on conduit de vieux tacos jusqu'à ce qu'ils vous claquent entre les mains, où les enfants fréquentent les écoles publiques, où l'on fait ses courses au supermarché le week-end, où l'on grignote des biscuits chez sa grand-mère tous les samedis. Elle n'avait manqué de rien. Elle avait toujours mangé à sa faim. Elle avait eu l'occasion de passer des vacances à l'étranger, de faire des sorties shopping à Oxford Street, de s'offrir des plats à emporter le vendredi soir. Elle savait de quoi serait fait le lendemain. Sa vie était parfaite. Mais elle était mate, pas brillante. Elle pense aux cendres, à la famille Jacques, à la piscine qui avait certainement été remplie d'une eau turquoise scintillant au soleil d'été, aux sculptures qui avaient sans doute orné les socles en plexiglas, à la musique qui devait autrefois jaillir des portes du manoir et inonder les pelouses impeccables, et au rire pincé si typique de ces gens qui possèdent plusieurs voitures, des chevaux de concours et un chalet dans les Alpes. Leur fille, Scarlett, avait été élève ici selon Kerri-Anne Mulligan. Sean s'approche en tenant 2 verres de vin et s'assied à côté d'elle. « Pardon, ça a été un peu long, on m'a tenu la jambe. »« Buvons un coup et allons socialiser. » Oh. « Vraiment? On est obligé de s'infliger ça ?» demande-t-il en appuyant son front sur l'épaule de Sophie. Elle passe les doigts dans ses cheveux en riant. « Je crois bien que oui. Tu es le roi ici. Il faut aller à la rencontre de tes sujets. »« Tu as raison. » maugrait-il en relevant la tête et posant une main sur son genou. « C'est inévitable. » Ils n'ont pas le temps d'avaler 2 gorgées avant qu'un couple s'invite à leur table. Fleur et Robin, la prof de géographie et le prof de photographie, vivent dans une maison juste à la sortie du village, ont un border terrier nommé Oscar et un lapin, Bafta. Ils sont assez bavards. Un homme d'une cinquantaine d'années à la barbe remarquable, Troy, se mêle à la conversation. C'est le professeur de philosophie et de théologie. Il habite sur le campus et leur donne de nombreuses recommandations concernant les meilleures boutiques des environs. Épicerie, caviste et boucher. Sean s'éclipse avec quelqu'un pendant un moment, et Sophie se retrouve seule avec Troy, mais cela ne la gêne pas. Il est d'un abord facile. Ils sont rejoints par une autre personne avec un accent français, puis une avec un accent espagnol. Soudain, sa table grouille de gens dont elle ne parvient plus à mémoriser les noms et les fonctions au sein de Maple. Elle remarque un jeune homme qui reste à la périphérie du groupe. Il tient une bière d'une main, l'autre est plongée dans la poche de son short bleu marine. Il a les cheveux châtains, courts et ondulés. Il porte une chemise blanche aux manches roulées au-dessus des coudes et des baskets assorties sans chaussettes. Il est beau. Il ressemble un peu à un acteur de cinéma. Il parle à une dame plus âgée qu'il n'a pas l'air de bien connaître. Il semble faire un effort pour être particulièrement charmant et poli. Elle le voit se retourner dans sa direction, comme s'il sentait qu'elle l'observait, et détourne le regard. Quand elle lève à nouveau les yeux, la femme est partie discuter avec quelqu'un d'autre, le laissant en plan. Il soulève sa bière et boit une gorgée, l'air pensif. Il la remarque et lui sourit. « Vous devez être la compagne de Monsieur Gray, » devine-t-il en s'approchant d'elle. « Oui, Sophie, enchantée. » Il change son verre de main et tend le bras dans sa direction. « De même, Liam, je suis auxiliaire de vie scolaire. Je travaille avec les élèves qui ont des besoins spécifiques, qui sont dyslexiques ou dyspraxiques surtout. » Il s'exprime bien, mais elle remarque un reste d'accent de Gloucester, assez brut. « Oh, ça doit être très intéressant. » Il hoche vivement la tête. « Oui, c'est super. Enfin, ce n'est pas mon plan de carrière, c'est temporaire, mais pour l'instant, j'adore ce que je fais. » « Et quel est votre plan de carrière, si ce n'est pas indiscret ?»« Eh bien, » commence-t-il en se caressant la nuque et fronçant les sourcils. « Je ne suis pas encore tout à fait sûr. » »« Je tâtonne un peu, pour être honnête. J'ai 21 ans, mais dans ma tête, j'en ai encore 15. Je ne sais pas trop. Disons que j'ai pris un faux départ. » Il a l'air de s'excuser, alors Sophie se met à le rassurer. « Mais non, vous travaillez et vous avez une tâche très importante. C'est déjà bien plus que beaucoup de jeunes gens de votre âge. » « Oui, peut-être. » « Alors, que pensez-vous de Maple House ?» Elle regarde autour d'elle. « Je crois que ça me plaît. C'est très différent. Je viens de Londres, j'y suis née et j'y ai toujours habité. La campagne, ça fait un petit choc. » « Ce n'est pas la campagne ici, je vous assure. J'ai grandi dans une ferme de Gloucestershire. Ça, c'était la campagne. Upfield Common, c'est juste un joli écrin de verdure pour les gens qui n'aiment pas vivre en ville. » Sophie lui sourit. « Vous avez sans doute raison. Vous travaillez ici depuis longtemps ?» En fait, commence-t-il avec un rictus gêné, j'étais élève avant. Mes parents m'ont expédié ici quand j'avais 16 ans pour faire ma seconde, parce que j'étais trop distrait par certaines personnes dans mon ancien lycée. Ça m'a plu, alors je suis restée jusqu'au bac. Que j'ai raté. J'ai réessayé. Nouvel échec. J'ai pensé faire encore une autre année, mais... Donc d'abord, j'ai été élève ici pendant... Il ferme les yeux tandis qu'il compte. 4 ans et des brouettes? Probablement un record pour mes pôles. La plupart des pensionnaires viennent pour 2 ou 3 ans. Mais maintenant, ils n'arrivent plus à se débarrasser de moi. Ils rient tous les deux. Vous devez savoir beaucoup de choses sur le lycée, son histoire. Oui, je suis le spécialiste mondial de Maple, c'est vrai. Donc si Sean a besoin d'informations, je peux vous l'envoyer. Parfaitement. N'hésitez pas, je ferai de mon mieux. Et vous étiez là l'été dernier quand ces jeunes gens ont disparu? Demande-t-elle avec prudence. Une ombre passe sur le visage de Liam. Oui, j'étais là. « En fait, j'étais même là-bas. »« Là-bas ?» répète Sophie en sursautant légèrement. « Oui, à la soirée, la nuit de leur disparition. J'étais amie avec la personne chez qui avait lieu la fête. Je n'ai rien vu, bien sûr, je ne suis au courant de rien. Mais oui, c'est vraiment choquant. » Il change aussitôt de sujet, au grand dam de Sophie. « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez dû quitter votre boulot à Londres ou... »« Non, » répond-elle en secouant la tête. « Enfin... » Avant, j'ai été assistante d'éducation, un peu comme vous, mais dans une école primaire. Maintenant, je suis à mon compte et je travaille à domicile, donc rien n'a vraiment changé à ce niveau-là. Cela dit, je n'ai pas encore tout à fait réussi à me remettre dans ma routine. Je suis constamment distraite. Elle laisse échapper un petit rire, mais en réalité, elle est inquiète. Après une semaine complète à Maple House, elle n'a toujours pas écrit une seule ligne de son prochain livre. Chaque fois qu'elle ouvre son manuscrit et s'apprête à taper, son esprit dérive vers Tallulah Murray, les cendres, Scarlett Jack, le rosier derrière l'arrêt de bus, les pas de bébé rose tatoué à l'intérieur du bras de Kim Knox, et la bague dans l'écrin poussiéreux caché dans son tiroir à maquillage. Elle pense à Martin Jacques qu'elle a cherché sur Internet après avoir trouvé la lettre, et revoit les photos de cet homme imposant, aux traits creusés et à l'air sérieux, avec ses cheveux gris acier clairsemés. Un homme qui est, à en croire LinkedIn, le PDG d'un fonds spéculatif basé à Guernesey, et qui, selon une autre source, vit seul à Dubaï depuis son divorce. Elle n'a rien découvert sur Madame Jacques et leurs enfants, mais cette séparation semble expliquer pourquoi le manoir des cendres a été ainsi laissé à l'abandon. Oh, je suis sûre que quand la routine du lycée aura repris, vous retrouverez vos habitudes. Elle lui adresse un sourire reconnaissant. C'est une remarque pertinente. Merci Liam, vous êtes très sage. En disant cela, Sophie voit Sean qui s'approche. Elle est frappée par le contraste entre les deux hommes, par la vingtaine d'années qui les séparent. Sean, quoique beau et charismatique, est assez vieux pour être le père de Liam. « Bonsoir », lance-t-il en tendant sa main vers le jeune homme. « Liam Bailey, n'est-ce pas ?»« Tout à fait. Quelle mémoire !» Il se rappelle l'occasion de leur précédente rencontre et la conversation se dilue avec d'autres participants, d'autres sujets. Sophie finit par ne plus être en train de parler avec Liam du tout. Il a été absorbé par un autre groupe. Elle s'éloigne et traverse la pelouse vers le bar. Elle attrape un second verre de vin et retourne à l'extérieur. Elle cherche Sean du regard, qu'elle trouve en pleine discussion avec Peter Doody et Kerri-Anne Mulligan. Elle voit Liam marcher vers la salle à manger et, sans réfléchir, décide de le suivre. Il traverse la grande pièce et sort par les portes opposées. Il passe ensuite par la cour arrière en direction d'une résidence. Elle le voit taper le code de la porte d'entrée et, après un bourdonnement et un clic, il disparaît à l'intérieur. Elle s'installe sur un banc dans la cour, profitant d'un moment de solitude avant d'aller se jeter à nouveau dans la mêlée. Le vin est tiède, mais elle le boit tout de même. Le soleil du soir étincelle entre les nappes de nuages mauves. Elle ferme les yeux et oriente son visage vers la lumière en écoutant le son distant des discussions et des rires. Elle frissonne légèrement et rouvre les yeux, et ce faisant, elle remarque deux pieds bronzés appuyés sur la rambarde d'un balcon au troisième étage de la résidence, à côté d'une table basse où sont posés un livre et une bière fraîche. Liam. Pendant un instant, elle s'imagine l'appeler, se faire inviter, et boire une bière avec lui en lui demandant son opinion sur ce qui a pu se passer aux cendres ce soir-là. Mais elle se ravise et rejoint la fête en passant par le cloître.